Passons maintenant la parole à notre collègue de, la de Paris Sorbonne Nouvelle, Fabio Schietti, qui va nous parler à propos d'une langue qui m'est très chère, le portugais.
Bonjour, mesdames et messieurs. Et, tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir invité ici et aussi les quatre qui sont à la traduction là-haut, parce que c'est vrai qu'ils font un travail énorme de nous apporter parfois, quand on a besoin, le support de la traduction, notamment dans mon cas pour le roumain. Je me présente tout d'abord, je m'appelle donc Fabio Schietti, je suis chercheur associé à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris, rattaché au laboratoire Clestia, et je suis un linguiste, sociolinguiste. Je m'occupe en particulier de vous apporter ici une question intéressante qui s'en sert dans ce débat, mais qui va au fond de deux communautés portugaises installées en Amérique du Nord. Et on va voir une petite comparaison pour voir aussi quelle différence il y a par rapport au contexte dans les deux cas, donc aux États-Unis et au Canada. Et je m'intéresse beaucoup aux pratiques langagières, donc j'irai en particulier vous montrer le lien entre les pratiques langagières et aussi les discours, la construction discursive au sein de ces petites communautés par rapport aux langues et au pouvoir des langues notamment. Ici, voici ma présentation. Je vais contextualiser tout d'abord, donc vous faire voyager entre Bridgeport aux États-Unis et Montréal au Canada. Après, je vous présenterai quelques résultats et je vous laisserai à la fin un peu de temps si vous avez des questions. Alors, en étudiant en sociolinguistique deux communautés d'immigration, forcément, on analyse un contexte migratoire qui est très riche et un contexte qu'on appelle de contact de langue, où les langues rentrent en contact. Une première considération à faire, c'est l'importance des pratiques langagères, en fait, dans ce contexte. Donc, les changements des formes et des normes dans ces contextes, et aussi tout ce que est appelé les phénomènes de contact de langue, donc tout ce qui est appelé pratique mixte ou pratique hybride. Mais ici, je voudrais me focaliser plutôt sur la relevance sociale qui peut avoir ce qu'on appelle la norme de prestige. Pourquoi, au sein de ces communautés, on parle d'une norme de prestige et comment la garder, et notamment voir comment les familles et au sein des institutions, par exemple des écoles communautaires, comment ils agissent en fait par rapport à cela. Et donc, il y a des implications forcément par rapport aux politiques linguistiques, non seulement du point de vue macro et donc à niveau d'État, province, etc., mais aussi à niveau micro, voire au sein des familles, justement, quels choix sont faits. Et des implications qui pour moi étaient très importantes pendant mes études et mes recherches, considération de la construction identitaire et comment on peut analyser l'élément langue dans toutes des représentations, des imaginaires, des symboles et des discours qui peuvent promouvoir en fait cette langue. Et à niveau de, pour revenir sur le contexte de migration, c'est important de voir comment le statut change, notamment du portugais justement qui était forcément stigmatisé au début, avait une position très négative au sein de ces communautés et dans les deux contextes étudiés, et comment aujourd'hui on essaye de le promouvoir avec des idéologies qui sont liées à sa pureté, à son historicité, à son authenticité, mais aussi de voir sa position de langue internationale, de langue qui aujourd'hui est forte. Alors, pour vous mettre un peu en contexte, une petite parenthèse par rapport aux deux contextes d'études. Donc, Montréal a été défini souvent comme une ville à deux faces, à deux visages, avec cette idée de double majorité, de langue que dans le public, en fait, domine le contexte, donc l'anglais et le français. Montréal est dans un pays, le Canada, qui est très connu notamment pour ses politiques du multiculturalisme. Pierre Elliott Trudeau dans les années 80 avec son acte du multiculturalisme. Et aussi on est dans une province, le Québec, où il y a eu énormément de programmes pour la défense en fait, de ce qu'on appelle les langues d'héritage, avec des différents programmes. Bridgeport, aux États-Unis, on redescend un petit peu et on voit un contexte assez différent. Déjà, à niveau du public, la langue dominante est l'anglais, je dirais English only. Par rapport à Montréal, qui est très éloigné d'autres communautés portugaises, la communauté ici, elle n'est pas vraiment isolée et donc elle se rapproche d'autres communautés portugaises dans toute la région de New England et aussi dans les États de New Jersey et New York. Et une autre différence qu'on voit entre Montréal et Bridgeport, c'est que si à Montréal, les quartiers ethniques sont en pleine revitalisation, à Bridgeport, on ressent vraiment un déclin de ces réalités. Par rapport aux deux communautés, il y a quelques différences aussi d'installation et de composition. Comme vous pouvez voir, Montréal est une communauté qui s'est installée beaucoup plus tardivement, donc dans les années 50. À Bridgeport, il y a une étude seulement qui a été faite à l'université de Yale dans les années 70 sur la communauté de Bridgeport qui s'est installée dans les années 20 dans un premier temps, puis avec la crise de 29, ils se sont redirigés vers d'autres destinations et ils se sont réinstallés dans les années 40. On voit aussi que les origines des membres de la communauté de Montréal sont plutôt variés. On voit des îles, donc Azores, Madère, et plutôt le Portugal, les régions du centre et du nord. Quand à Bridgeport, c'est la seule communauté dans tout l'ensemble de New England où les membres proviennent d'une région spécifique du Portugal, qui est à côté de l'Espagne, au nord-est, et qui s'appelle Trás-os-Montes. À niveau de composition, bien qu'il faut faire gaffe toujours à bien lire les statistiques, donc en combinant avec les statistiques nationales du Canada et des États-Unis, avec aussi ce que nous donne le consulat et en mélangeant en fait ce qui est origine ethnique plutôt que langue parlée à la maison, pour ne pas confondre avec les nouvelles migrations brésiliennes, on compte environ 60 000 Portugais ou d'origine portugaise à Montréal et 19 000 à Bridgeport. Dans notre cas, comme on va focaliser sur l'importance de l'élément langue et donc de comment aussi la langue elle est véhiculée à travers les institutions, il faut forcément parler des deux institutions, dans les écoles communautaires qui gèrent en fait l'enseignement du portugais au sein des communautés. Elles s'adressent notamment aux enfants qui ont des origines en fait portugaises, qui sont entre la troisième et la quatrième génération. À Montréal, on a deux institutions, la Missão Santa Cruz et Lusitânia, que c'est deux écoles qui se sont fondues ensemble, donc il y a l'enseignement primaire et secondaire ensemble. En 2018, on compte 300 étudiants qui se rassemblent tous les samedis, parce que c'est une école complémentaire par rapport au système québécois. Et on enseigne pas seulement le portugais, mais aussi la culture, l'histoire, la géographie, les maths, etc. À Bridgeport, comme vous voyez, il y a vraiment un déclin aussi à niveau institutionnel par rapport à la communauté portugaise. On a une école qui s'appelle Escola Vasco da Gama, et seulement une école primaire. En 2018, ils ont compté le moins d'inscription, donc avec 57 élèves seulement. Les cours sont donnés deux fois par semaine, par contre, le soir, le lundi et le mercredi. Et ici, on n'enseigne que le portugais. Mon approche. À niveau donc cette comparaison est faite parce qu'à Montréal, j'ai réalisé mon doctorat entre 2011 et 2014. Donc, c'est pour ça que j'ai réalisé beaucoup de terrains de recherche là-bas. Et à Bridgeport, j'ai réalisé un projet de postdoc au début de 2018 grâce au soutien de l'Association internationale d'études québécoises. Pour m'approcher aux deux contextes d'études, une fois arrivé à Montréal et à Bridgeport, j'ai essayé de participer déjà à la vie communautaire dans les deux cas. Donc j'ai fait beaucoup d'observations, notamment d'observations participantes aussi. Dans ce cas, pour l'un de mes focus était les pratiques langagères, de voir donc ce contact de langue et tout, l'érosion des formes, comment le portugais est parlé encore aujourd'hui dans les deux contextes. Et puis, la chose qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui et dont je vous montre quelques résultats, j'ai fait des entretiens semi-dirigés. Là, je me suis intéressé plutôt à tout ce qui concerne en fait, les imaginaires que les locuteurs et locutrices peuvent avoir de leur propre pratique. Donc, je me suis intéressé à des discours épilinguistiques, donc sur les pratiques, ou des discours sur les identités. Et donc là, on intervient à nouveau à considérer tous ces ensembles d'imaginaires, représentations, et aussi idéologie qui peuvent circuler. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vous présente plutôt cette deuxième partie de ma recherche. Je vous présente à chaque fois, j'essaie de faire 50-50, hein. Je vous apporte quelqu'un de Montréal et quelqu'un de Bridgeport, vous voyez le nom, l'âge et aussi ce que j'ai considéré la génération. Donc première génération, c'est quelqu'un qui est arrivé du Portugal dans le nouveau contexte. Deuxième génération, c'est quelqu'un qui peut-être est né déjà au Canada ou aux États-Unis d'une famille portugaise ou peut-être qui est arrivé à un très jeune âge là-bas. Et troisième génération, en fait, etc., etc. On arrive jusqu'à une quatrième. Alors, un premier point important, c'est voir au sein des institutions, en fait, voir comment elle est encore très importante, cette idée de norme, cette idée de bon portugais. Ça, Flor Bella, c'est un des exemples. J'en ai eu vraiment beaucoup à la fin des entretiens, quand je questionnais par rapport à leur portugais. Souvent, on me disait « Ah, mais non, mon portugais n'est pas bien. C'est pas comme... » Bon, comme le bon. Et là, elle me dit au mot portugais, cheque, ta, 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 ta. Déjà, ça, je l'ai retenu parce qu'on voit bien une mauvaise énergie aussi qui est donnée par rapport à cette présentation d'une pratique qu'elle a fait. Donc après, je vous dis 45 minutes d'entretien qu'on a eu en portugais. Et donc, on voit forcément comment l'école, donc ces institutions, ont un rôle important par rapport à cette norme. Et justement, Paolo, cet exemple s'enchaîne quand il me dit pas seulement qu'il a appris à écrire en portugais dans cette école complémentaire, mais il me dit aussi j'ai appris à parler. Et souvent j'avais ce type de discours, souvent on me disait j'ai appris à bien parler en allant à l'école. Et ça, vous voyez, c'est des locuteurs de deuxième génération, ce qui est très intéressant. Donc les mêmes institutions et certains membres, bien sûr, à niveau des institutions, véhiculent des discours qui sont des discours de promotion du portugais. Déjà, le azulejo que vous voyez, c'est l'azulejo qui est à l'entrée d'une des écoles, qui utilise une phrase de Camões, « A minha patria, a minha língua », qui peut être interprétée de différentes façons, mais je vous laisse l'interpréter un peu. Et là, on voit, déjà, dans les deux cas, on a deux... un locuteur, une locutrice de troisième génération, quel discours, en fait, ils amènent en dehors de l'école et qu'ils écoutent, en fait, à l'école. Donc, le portugais est une langue internationale. Jaime me dit, le portugais est la septième langue la plus parlée au monde, la tercière, la troisième dans le monde occidental. Et, en fait, tous ces discours que j'ai retrouvés souvent avec des entretiens, avec des locuteurs, excusez-moi, de scolarisés, en fait, à l'école. Juste une petite parenthèse, il faut rappeler que les enseignants dans les deux institutions que je vous ai dit, à Bridgeport comme à Montréal, ils sont tous du Portugal continental. Donc là aussi, on voit bien l'importance qui est donnée à la norme par rapport à d'autres variantes du portugais. On a remarqué aussi comment, par rapport à tous ces imaginaires et toutes ces idéologies de la langue, les politiques linguistiques à niveau des familles peuvent être influencées. Là, on voit Elisabeth, par exemple, de deuxième génération, qu'elle me dit, avec son mari, on essaye de parler portugais avec notre fille. Donc, on voit vraiment l'effort. Et on voit que si les deux, même si les deux sont d'origine portugaise, le portugais n'est pas forcément, fait partie du répertoire langagier des deux, mais n'est pas forcément la langue qui est la plus utilisée au sein de la famille. Et ça me fait rappeler quand j'avais rencontré le prêtre de l'église qui m'avait dit « Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de parents ne parlent pas à la maison et ils veulent scolariser les enfants à l'école parce qu'ils pensent que la transmission, ce n'est pas la famille qui se fait, mais non, c'est à l'école qui se fait. » Donc, ça peut être intéressant à voir. Et comme dernier point, de voir aussi quel lien a cette idée donc de bloc comme langue, le portugais, qui est enseigné dans une institution, donc l'école portugaise, dans le quartier portugais, et quelle représentation elle a à niveau d'identité. Une identité qui, bien sûr, est une identité imaginée, une identité diasporique qui a été fondée sur une idée un peu de bloc national, donc de ce petit Portugal, justement, comme il s'appelle. Et là, on a Jaime qui me parle de se sentir de façon différente et de voir ce lien avec ses racines. Là, une autre petite parenthèse, souvent j'avais des rencontres avec des jeunes de 3e ou 4e génération d'origine portugaise qui n'avaient jamais vu le Portugal et ils se sentaient au 100% portugais. Donc pour vous dire aussi de quelle façon est élaborée en fait toute cette idée de communauté là-bas, dans les deux cas. Et bien que dans cette idée d'identité, j'ai choisi là aussi deux images assez intéressantes, une qui nous ramène plutôt sur le côté religieux et l'autre sur le folklore, parce que là aussi ces deux images intéressantes qui m'ont aidé à voir comment les Portugais voyaient ce bloc de langue portugaise. J'ai eu beaucoup de symboles. Là, je vous en ai apporté un qui peut être intéressant. Le portugais est sacré comme la Bible, donc on voit bien le lien avec la religion. Souvent, j'ai eu l'image du drapeau aussi. Et là aussi, on revient donc cette idée de langue, norme, nation. Esmeralda, je me rappelle, elle me disait, devant chez moi, à ma porte, il y a le drapeau portugais. Quand mon fils rentre, pas de français, pas d'anglais. Donc vous voyez bien quel type d'image. Alors tous ces discours, en fait, ils s'appuient sur des idéologies qui peuvent influencer le processus identitaire à niveau de communauté dans ce type de contexte, mais aussi d'intégration. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de voir non seulement comment on s'intègre à niveau de portugais dans la communauté portugaise, soit à Montréal, soit à Bridgeport, mais comment on s'intègre aussi à niveau dans le macro, dans le contexte montréalais ou dans le contexte de Bridgeport. Et je trouve que toute cette réélaboration idéologique du portugais comme une langue internationale et langue forte, soit le moteur, en fait, qui permet à ces deux entités de se perpétuer dans le temps. J'espère que tout a été clair et je vous remercie.
Muito obrigado.
Bom português.
So it's an important point on the question of heritage language is a very important topic on plurilingualism, the question of heritage language, and it also touched somewhere the local languages, and you have to study about it.